Lassani.
Ravi de vous accompagner en ce mercredi soir. À la une de votre journal, Gabriel Attal attendu à Viry-Châtillon demain. C'est dans cette ville où le jeune Chemseddine est décédé au début du mois que le Premier ministre doit faire des annonces sur l'autorité. Et Emmanuel Macron a fixé le cap en Conseil des ministres ce matin. Il faut lancer un cycle de concertation pour combattre l'ultra-violence chez les plus jeunes. Beaucoup de drames, trop de drames, illustrent ce phénomène dans l'actualité. Encore un exemple à Grande-Synthe dans le Nord, où un homme de 22 ans a été passé à tabac en pleine rue dans la nuit de lundi à mardi. Il est décédé des suites de ses blessures. Deux mineurs sont en garde à vue. Vous entendrez le témoignage du frère de Philippe, la victime, dans quelques minutes. Dans ce journal également, la riposte, toujours en cours de préparation en Israël après l'attaque de l'Iran. On sera à Tel Aviv. Et puis l'invité politique d'Europe 1 Nuit, le député Renaissance Patrick Vignal, sera avec nous.
Europe 1.
100 jours à Matignon et une mission pour Gabriel Attal, trouver des solutions au surgissement de l'ultra-violence, en particulier chez les plus jeunes. Cette demande, Emmanuel Macron l'a formulée en Conseil des ministres ce matin, après plusieurs drames impliquant des mineurs ces dernières semaines. On se souvient des passages à tabac de Samara et de Chemseddine notamment. Arthur Delaborde, comme Europe 1 le révélait aujourd'hui, c'est justement dans la ville où l'adolescent de 15 ans a trouvé la mort, Viry-Châtillon, que le Premier ministre est attendu demain.
Il faut une réponse forte alors que l'actualité a été émaillée ces dernières semaines par une succession de faits divers liés aux questions de laïcité et d'autorité, fait savoir l'entourage du Premier ministre. La date n'a pas été choisie au hasard puisque Gabriel Attal passera demain le cap des 100 jours à Matignon. L'idée à cette occasion, selon ses proches, ce n'est pas de regarder dans le rétroviseur mais d'aller de l'avant avec des pistes concrètes sur cette question de l'autorité régalienne, sujet marqueur pour Gabriel Attal. Le lieu se veut aussi symbolique, Viry-Châtillon, où le jeune Chemseddine est mort il y a deux semaines après avoir été tabassé à la sortie du collège. Mais la visite de demain ne sera pas consacrée à cette affaire. Ça sera un déplacement de société, précise un conseiller de l'exécutif, qui ajoute que le Premier ministre va apporter des réponses au mal-être adolescent, dont l'expression ultime est l'hyperviolence nourrie par des phénomènes nouveaux comme l'entrisme islamiste, le harcèlement, la surexposition aux écrans. Il faut sortir de la logique de l'individualisme qui remplace la règle commune, résume un proche de Gabriel Attal.
Arthur Delaborde, et un cycle de concertation sera lancé par le chef du gouvernement demain. Lutter contre le processus de décivilisation demande du temps long et engage tous les acteurs, professeurs, maires, associations et parents. Ce sont les mots du président de la République. Emmanuel Macron parle d'un phénomène de décivilisation. En voici une nouvelle illustration. Un jeune homme de 22 ans est décédé dans la nuit de lundi à mardi après une violente agression en pleine rue à Grande-Synthe dans le Nord. Philippe, c'est le prénom de la victime, a subi un déchaînement de violence. Ses agresseurs ont dérobé son téléphone avant de prendre la fuite. Depuis, deux mineurs âgés de 14 et 15 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Le frère de Philippe s'est confié au micro d'Europe 1. Il est sous le choc et réclame la plus grande fermeté.
C'est quand même la barbarie d'humiliation. C'est très grave, ça aurait pu arriver à tout le monde. Là, malheureusement, c'était mon frère qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. On retiendra que mon frère, c'était quelqu'un de souriant, aimable, gentil, généreux. Tout le monde le connaissait ici et tout le monde garde une bonne image de lui, et c'est le plus important. Tout le monde l'aimait bien, des plus petits aux plus vieux. Socialement parlant, il était très très fort, les gens l'appréciaient tous. C'est vraiment quelqu'un d'aimé. Il faut que la justice mette des peines exemplaires et des peines très très lourdes.
Le frère de Philippe tabassé à mort en pleine rue à Grande-Synthe au début de la semaine. Propos recueillis par Florence Billard et une enquête pour meurtre en bande organisée est ouverte par le parquet de Dunkerque. Il a délibérément foncé à motocross sur un policier municipal à Schiltigheim dans le Bas-Rhin lundi. Un mineur de 17 ans a été présenté à un juge aujourd'hui après sa garde à vue. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès devant le tribunal pour enfants en juin prochain. L'agent blessé durant ce refus d'obtempérer s'est vu prescrire 6 semaines d'ITT. Le gouvernement vante les résultats des opérations PlaceNet XXL. Ces missions de lutte contre le trafic de drogue menées dans 9 agglomérations depuis le mois dernier ont donné lieu à près de 4000 interpellations au total, 600 présentations à un juge et 186 mandats de dépôt. 4 tonnes de drogue ont été saisies, plus de 500 armes et 20 millions d'euros en argent frais. Ils savent qu'ils mentent. Les mots de Jean-Luc Mélenchon, très remontés après l'annulation d'une conférence prévue demain à l'Université de Lille et à laquelle le fondateur de la France Insoumise devait participer aux côtés de la candidate LFI aux européennes, Rima Hassan. Selon l'université, les conditions n'étaient pas réunies pour garantir la sérénité des débats consacrés à la Palestine. Plusieurs élus de droite et de la majorité avaient demandé cette annulation car ils craignaient des dérapages antisémites. LFI promet d'organiser la réunion dans un autre lieu. C'est la première fois que la mère du petit Émile s'exprime depuis la découverte des ossements de son fils. Elle a posté un message sur un groupe de soutien à sa famille sur Facebook aujourd'hui. Message dans lequel Marie Soleil remercie les nombreux internautes qui ont exprimé leur compassion envers elle et ses proches depuis la disparition du garçon de 2 ans en juillet dernier. Vous écoutez Europe 1, il est 22h05. La situation au Proche-Orient était au cœur d'un Conseil européen extraordinaire à Bruxelles aujourd'hui. Emmanuel Macron y participait. Le président de la République estime qu'élargir le champ des sanctions contre l'Iran est un devoir pour l'Union européenne, quelques jours après l'attaque inédite de Téhéran contre Israël. Bonsoir Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. L'État hébreu n'a toujours pas acté la forme de la riposte, mais elle aura bien lieu.
Oui, notre pays se réserve le droit de se protéger, redit Benjamin Netanyahou. Israël ripostera bien, même si les modalités de cette riposte sont toujours au cœur d'intenses négociations au sein du cabinet de guerre israélien. Au même moment, l'Iran faisait défiler ses soldats aujourd'hui, répétant sa menace qu'elle apporterait une réponse féroce à toute riposte. Des déclarations belliqueuses alors que la communauté internationale presse pour une solution diplomatique après les frappes iraniennes du week-end dernier. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, en visite en Israël aujourd'hui, a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue. Elle était aux côtés de son homologue britannique David Cameron. En toile de fond, cette inquiétude croissante d'un embrasement régional et la tension est à son comble. Le nord d'Israël a été une nouvelle fois lourdement frappé par des drones explosifs et des missiles aujourd'hui lancés depuis le Liban par le Hezbollah, allié de l'Iran. Les frappes visaient une base militaire. Elles ont fait 14 blessés, dont 6 graves.
Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. L'État hébreu qui pourrait recevoir une nouvelle aide conséquente de la part des États-Unis, une proposition de loi pour débloquer 26 milliards de dollars, va être examinée par la Chambre des représentants à Washington samedi. Deux autres enveloppes, 61 milliards de dollars pour l'Ukraine et plusieurs milliards pour Taïwan, seront également soumises au vote. Le président américain Joe Biden a dit sa volonté de voir ces textes approuvés. Pour le troisième soir de suite, des milliers de manifestants envahissent les rues de la capitale géorgienne, Tbilissi. Environ 20 000 personnes se sont rassemblées devant le Parlement avant d'entamer une marche vers les bureaux du Premier ministre. Ce mouvement de colère est déclenché par le vote en première lecture d'une loi sur les agents de l'étranger hier. Ce texte est jugé liberticide et trop favorable au pouvoir russe par ses détracteurs. En France, l'entreprise Michelin annonce une réforme profonde de sa politique salariale. Les 132 000 salariés du groupe dans le monde bénéficieront d'un salaire décent qui doit permettre à chacun de subvenir aux besoins essentiels d'une famille de 4 personnes, mais aussi d'épargner et d'acquérir des biens à la consommation. À Paris, cela représente plus de 39 000 euros bruts par an, 25 000 à Clermont-Ferrand, où se situe le siège social de Michelin. En football, les deux derniers quarts de finale retour de la Ligue des Champions se déroulent en ce moment et je fais appel évidemment à mon consultant Olivier Delacroix qui suit ça avec la plus grande attention. Pour le moment, le Real Madrid, après 48 minutes de jeu, mène 1-0.
Donc exactement, pour avec un sang-froid incroyable.
Et pour l'instant, le Real est donc qualifié puisqu'il y avait 3 partout la semaine dernière à l'issue du match aller. Et dans l'autre match, le Bayern reçoit Arsenal et ça donne quoi, Olivier?
Et ça donne 0-0 pour l'instant dans un match très stratégique, calculé. Les deux équipes ont du mal à se livrer. Je rappelle qu'elles ont fait 2 partout à l'aller.
Voilà.
Donc on est dans 2 matchs très très tendus, notamment là-bas à City où Manchester City fait le siège du camp du Real de Madrid qui défend royalement.
Voilà.
Donc, écoutez, moi je vais vous dire ce que j'ai parié. J'ai parié que Kylian Mbappé en finale aller affronter le Real de Madrid.
D'accord, bon, vous avez un coup d'avance, mais c'est noté, et on verra ça. Pour l'instant, le Real Madrid, virtuellement, est donc qualifié pour les demi-finales de la Ligue des
Exactement.
Champions, du moins. Vous écoutez Europe 1, il est 22h09. Place maintenant à l'invité politique d'Europe 1 Nuit.
Europe 1 Nuit, Maël Hassani.
L'invité politique d'Europe 1 Nuit, ce soir, c'est le député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir.
Merci de répondre à nos questions. Demain, le Premier ministre Gabriel Attal se rendra à Viry-Châtillon, en région parisienne, à l'occasion de ses 100 jours à Matignon, une ville évidemment hautement symbolique où le jeune Chemseddine a été tabassé à mort début avril. Emmanuel Macron a donné une mission au Premier ministre ce matin, lancer une grande concertation pour trouver des solutions au surgissement de l'ultra-violence, en particulier chez les plus jeunes. Patrick Vignal, il a donc fallu attendre 100 jours, une série de drames ces derniers jours, et un coup de pression du président pour que le Premier ministre s'attaque au problème ?
Non, vous savez, moi, ça fait très longtemps, depuis 3 mandats, je travaille sur les quartiers populaires. D'ailleurs, j'ai une loi qui est passée au Parlement sur mettre en place des adultes dans les territoires. Vous savez, cher monsieur, il y a 40 ans de lâcheté politique. Et tout cela part de l'urbanisation. On a fait des ghettos de pauvres et des ghettos de riches. Tout cela n'empêche pas, et je peux vous inviter dans ma région Occitanie, où dernièrement j'ai rencontré des médiateurs dans une ville, je ne vais pas la citer pour ne pas la stigmatiser, où ils m'expliquaient que des gamins à 12 ans n'avaient pas la notion de vie ou de mort. Aujourd'hui, on a une partie de cette jeunesse, en colère certes, mais qui ne sait pas dire les choses, qui sait uniquement se servir de couteau ou d'armes. Tout cela nous ramène aussi à un problème de cannabis, un problème de drogue. Vous savez, je vous invite dans mes territoires, un gamin de 14 ans qui chauffe, c'est-à-dire il reste sur une chaise, il gagne entre 180 et 200 euros par jour. Donc on a un vrai problème avec une partie de la jeunesse, on a un vrai problème avec les réseaux sociaux, mais encore une fois, on a besoin d'investissements, certes, de la justice, de la police, on a augmenté les crédits, mais il faut remettre des adultes. Quand vous êtes dans une famille, j'ai des mamans, des mères qui me disent « Je ne peux pas gérer mes gamins, mettez-les en prison ». Donc vous voyez,
alors concrètement, vous attendez quoi comme annonce demain du Premier ministre ? Parce que là, vous faites un diagnostic qui est certainement vrai et que beaucoup de Français constatent. Mais qu'est-ce qu'on attend du Premier ministre demain à Viry-Châtillon ?
De l'autorité, de la fermeté. Et je veux qu'on pose le débat, on l'a ouvert, sur certaines familles qui aujourd'hui sont complices de leurs gamins. Ça, c'est une partie. Et il y a une partie de ces familles qui ne peuvent pas gérer ses enfants. Et là, c'est la République d'être présente, dont à la fois plus de bleu dans les territoires. Je regrette la police de proximité, mais aujourd'hui, cher monsieur, je ne sais pas si on pourrait remettre de la police de proximité dans les territoires où les gars, ils prendraient des frigos sur la gueule toute la journée. Donc il y a une fermeté de police, il y a la réflexion de l'ordonnance 45 sur les mineurs. Les mineurs d'il y a 40 ans ne sont pas les mêmes. Donc il faudra plus de fermeté, est-ce qu'il faudra des centres fermés ? Mais cela n'augure pas qu'il faudra qu'on mette des adultes qui soient capables de mettre en place un échange, un discours à cette jeunesse qui rouille au bas des immeubles. Donc fermeté, autorité et ou trouver des chemins d'espérance. Et je précise aussi qu'on a besoin des habitants, on a besoin du monde associatif et on a plus que jamais besoin des maires. On n'a pas assez travaillé avec des maires. Et si vous n'êtes pas un travail d'assemblier, maire, département, région, douane, service de justice, police, ça ne pourra pas fonctionner parce que croyez-moi, c'est dur à dire, mais le mal est profond.
Alors, on entend les mesures que vous avancez, Monsieur Vignal, mais je suis désolé de revenir sur l'actualité brûlante. Demain, Gabriel Attal est en déplacement, ça fait 100 jours qu'il est à Matignon. Est-ce que cette fois, on peut espérer aller au-delà des grandes déclarations ? On sait qu'il maîtrise cet exercice, mais après autant de drames impliquant des mineurs, est-ce qu'on peut aller au-delà des mots ?
Mais cher monsieur, moi je veux être clair, c'est français, depuis ce matin je réponds à des interviews. Vous pensez qu'en 5 jours, Gabriel Attal, il peut changer les choses ? Je vous l'ai dit, il y a 40 ans de lâcheté, nous on prend notre part depuis 7 ans. En fait, on n'a jamais eu vraiment de réflexion sur la politique de la ville. La politique de la ville, ça commence d'abord par l'urbanisation. Vous avez des territoires qui sont des ghettos, qui sont fermés, où même la police a du mal à rentrer et à sortir. Donc le vrai débat, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'urbanisation ? Comment on fait un aménagement de territoire ? Qu'est-ce qu'on fait pour nos gamins ? Vous savez que dans des quartiers de Montpellier, le gamin, il va à la crèche, à l'école primaire, au collège, il va au lycée, au club de foot, au club de boxe, il reste dans l'entre-soi du territoire. Donc la mairie de Toulouse et Moudenc a compris, on a commencé à faire des écoles qui étaient inter-quartiers. Tant qu'on ne sera pas capable de mélanger nos gamins pour qu'ils fassent ça pour vivre en vain, ça ne marchera pas. Donc ne demandez pas à Gabriel Attal d'être Zorro. Gabriel Attal, il est jeune, il a beaucoup d'autorité. Moi, j'étais un des seuls à le dire, parlementaire. Il est jeune, mais il a cette autorité. Il a envie. Il faut que le président le laisse bosser, le laisse travailler. Il faut qu'il s'entoure de femmes ministres et hommes parlementaires qui soient capables d'aller sur ces territoires porter de bonnes paroles. Ces territoires, on les a abandonnés, on les a On a fait sortir les services publics, on a laissé qu'un petit monde associatif. Nous, il y a une révolution à faire et ce n'est pas en 5 jours qu'Attal pourra la faire. Il faudra des décennies pour changer les choses.
Quand vous dites qu'il faut que le président de la République laisse Gabriel Attal bosser, ce sont vos mots, ça veut dire que Gabriel Attal, il n'a pas vraiment les mains libres ? C'est votre constat après 100 jours à Matignon ?
Non. Je dis qu'il y a eu pendant 2 ans et demi Elisabeth Borne qui a fait le boulot, qui est une femme exceptionnelle, mais qui était plus technicienne que politique. Et Gabriel Attal est un militant PS politique. Vous savez, depuis 3 mandats, je connais Gabriel Attal. Et j'ai vu dans ce jeune cette envie de dépassement. Donc aujourd'hui, il est Premier ministre, il a un gouvernement. On est 250 parlementaires. Je le dis à mes collègues qui me disent on s'ennuie à l'Assemblée. Moi, aujourd'hui, je rentre de Serré pour faire justement un complexe sportif pour joindre les paralympiques et les olympiques. J'étais à Nîmes hier sur justement des quartiers difficiles comme Pissevin et Mas de Mengue avec des buralistes qui en ont ras-le-bol d'avoir cette économie souterraine avec ces cigarettes où vous avez cette mafia qui prend des gamins de 14 ans et qui leur fait vendre des cigarettes au bas des immeubles. Donc vous voyez qu'il y a des choses à faire, mais nous serions indécents si nous disions aux Français qu'en 100 jours on peut changer les choses. Je vous répète mes propos, 30 à 40 ans de lâcheté, on a laissé trop faire, il faudra du temps, il faudra le soutien des Françaises et des Français, le soutien des maires, des corps intermédiaires et du monde associatif. Et là, la recette sera peut-être excellente.
Patrick Vinal, je rappelle que vous êtes député Renaissance de l'Hérault. Parlons d'un autre sujet brûlant. Jean-Luc Mélenchon et la militante franco-palestinienne Rima Hassan devaient participer à une conférence sur la situation au Proche-Orient, précisément en Palestine, à l'Université de Lille. Mais l'université annule cette réunion en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Plusieurs élus de droite et de la majorité demandaient cette annulation. Vous la saluez, cette décision de l'université ?
Vous savez, ce qui est certain avant toute chose, c'est que si l'université a vu qu'il y avait un problème de sécurité, d'abord, elle a eu raison d'annuler. Enfin, c'est le principe. Mais vous savez, la vraie question que pose cela, c'est pas que cette soirée, c'est vraiment la question majeure, la question de fond, politiquement et brûlante. C'est que la LFI, et je suis désolé de le dire, depuis le 7 octobre dernier, prend des positions problématiques concernant le Hamas. C'est une organisation terroriste, que ce soit pour la France et pour l'Europe. Et comme l'a rappelé Jérôme Guedj, député PS, vous vous rendez compte, sur cette affiche de la conférence, on a un slogan « Palestine libre », ça me dérange pas, avec une carte qui sous-entend la disparition d'Israël. Sur des sujets aussi graves, les exclamations indignées de LFI, de leur leader Maximo Jean-Luc Mélenchon, ça sert à quoi ? À dissimuler cette réalité. LFI a une position que toute la classe politique française dénonce sur le Hamas.
Et donc il faut les empêcher de tenir des conférences sur la Palestine, par exemple, comme à Lille ?
Non, pas du tout. Mais
donc
ce n'est
pas une décision que vous pouvez saluer aujourd'hui, cette décision de l'Université de Lille ?
Vous savez, je ne salue pas quand, à un moment donné, quand on est obligé d'interdire. Hein. Mais on en est là avec LFI. Vous savez, cher monsieur, je suis ravi d'être à votre micro. Je veux dire pourquoi. Certaines universités aujourd'hui connaissent des tensions majeures en raison du conflit Israël-Hamas. Ça fait 3 familles. J'ai été alerté par des familles dont les enfants, étudiants, juifs, sont menacés tous les jours dans leur fac en raison de leur appartenance à cette religion. En France, il va falloir qu'on refuse que l'éducation, la société et le débat soient instrumentalisés par des militants radicaux. Et c'est ça le vrai problème. Comment on peut tolérer en France que des jeunes soient virés des facs parce que leur religion, c'est la religion juive ? Donc vous voyez qu'il y a, je vais le dire le mot, il y a une certaine gangrène dans les facultés. Et moi, je pense que c'est des lieux libres de débat. Moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait tous les militants politiques, tous les leaders qui aillent échanger. Mais je trouve qu'en ce moment, on a une tournure nauséabonde. Et on connaît bien Jean-Luc Mélenchon, c'est un vrai politique, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un d'intelligent. Aujourd'hui, son objectif, c'est 2027. Son objectif, c'est de mettre une France dans le chaos. Et ça me gêne. Moi qui suis un homme de gauche, parce que, cher monsieur, la France, elle n'a jamais eu besoin autant de gauche. Les sondages nous le prouvent. Mais la gauche de Mélenchon, c'est une gauche, désolé de le dire, qui veut fracturer et qui veut monter des populations et des religions les unes contre les autres. autres. Ce monsieur est très dangereux, donc la fac de Lille a eu raison d'annuler ce débat.
Patrick Vignal, dernière question et je vous demanderai une réponse assez rapide. Les élections européennes approchent. Pour l'instant, la tête de liste Renaissance, Valérie Ayé, est créditée de 16% dans les sondages, largement derrière le RN, emmené par Jordan Bardella, donné à environ 30%. D'ailleurs, le président du RN et Marine Le Pen promettent de demander une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de victoire le 9 juin prochain. Est-ce qu'il y aurait une logique démocratique à dissoudre après une claque pour le camp présidentiel ?
Non, mais attendez, d'abord, je ne sais pas si on prendra une claque. J'espère que si on prend une claque, on en tirera les conséquences, mais il est sympa Bardella, mais il y a un problème, il faut qu'il prenne des cours de droit. Enfin, est-ce que vous, cher monsieur, vous pouvez expliquer à monsieur Bardella comment fonctionnent nos institutions ? Ce n'est pas des élections européennes. Aujourd'hui, celui qui peut décider...
Mais le choix de dissoudre revient à Emmanuel Macron. Ça, c'est...
Mais bien sûr, mais moi, cela ne m'étonne pas de la part du Rassemblement National. Vous savez très bien qu'ils sont jamais, ils n'ont jamais été fans depuis toujours de la République et de ses règles. Donc, ce n'est pas étonnant que ce jeune homme ne connaisse pas le fonctionnement de la démocratie. Vous savez, cher monsieur, ce que je pense, moi. Je vois bien, je passe mes week-ends à donner des tracts sur le terrain. Qu'on veuille ou pas, cette élection, elle est à la fois européenne et nationale. Nous sommes dans une période difficile pour cette majorité dont je fais partie et j'assume aussi les erreurs que nous avons faites. Je ne sais pas ce qui se passera le 9 juin, mais à partir du 10 juin, on a besoin de renverser la table. Je pense que la relation doit être nouvelle avec les Français. Vous savez, je suis le seul parlementaire qui trouve indécent quand vous avez un PDG qui s'appelle Carlos Tavares, qui est passé de 54% d'augmentation de son salaire entre 2022 et 2023, et que je vais demander à un petit retraité de payer 50 centimes de plus sur sa boîte de médicaments. Voilà, cher monsieur, les résultats des élections aujourd'hui. Et je suis convaincu que Gabriel Attal et un petit peu d'énergie nouvelle, on redressera ce pays, sinon on va donner les clés du château et le bail à Marine Le Pen. Et franchement, ça me gênerait, parce qu'il n'y a pas d'avenir, ni économique, ni politique, ni philosophique.
Merci beaucoup Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Merci d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 Nuit ce soir.
Bonne soirée.
Merci à vous. La météo désormais, avec vous Marlène Duret. Le retour des températures printanières, c'est pas pour demain.
Et oui Maëlle, tant que les saintes glaces ne sont pas passées, le froid n'a pas dit son dernier mot. Et d'ailleurs, cette séquence d'air plus frais qui a commencé hier va durer encore une dizaine de jours. Alors en attendant, on va jeter un œil sur les températures de demain après-midi. Notez 5 degrés dans le Doubs du côté de Morteau, 9 à Clermont-Ferrand, 10 ou 11 degrés en Alsace, 11 à Cherbourg également, 11 à 13 degrés en Vallée du Rhône, 13 à Lille ainsi qu'à Toulouse. Il fera 14 à Paris, à Tours, 16 à Bordeaux, 17 à Montpellier ou encore 18 à Bastia. Alors cet air plus frais a quand même pour effet de faire tomber la neige en montagne à basse altitude. Et puis ça favorise aussi de l'instabilité sur une grande partie du pays sous forme d'averses ou de giboulées, de passages nuageux entrecoupés d'éclaircies. Mais il y aura quand même plusieurs régions qui seront épargnées, qui profiteront d'une journée ensoleillée, fraîche mais ensoleillée. Et bien sur une moitié nord-ouest du pays, disons de la frontière franco-belge en allant vers le bassin d'Arcachon et en remontant vers la Bretagne. Côté Méditerranée, un dernier mot quand même, le ciel sera partiellement dégagé par les vents et le temps deviendra quand même mitigé dans l'après-midi avec parfois quelques averses.
Merci beaucoup Marlène Duret. Vous écoutez Europe 1, il est 22h22, place maintenant à la libre antenne jusqu'à 1h du matin avec Olivier Delacroix, bonsoir.
Bonsoir mon cher Maël, avec le Bayern de Munich qui vient juste d'ouvrir la marque contre Arsenal.
Ah donc on a virtuellement le Bayern de Munich et le Real Madrid en demi-finale.
Exactement.
De la Ligue des Champions de football.
Exactement. Bon, pour l'instant, hein, puisqu'il reste quand même une demi-heure à City, qui continue de pousser, et croyez-moi, quand City pousse, ça peut aboutir. C'est une équipe qui n'a pas perdu depuis 2 ans.
Hein, donc, oui, bien sûr. C'est très voilà. Solide. Écoutez, je donnerai tous ces résultats-là à 23h.
Exactement.
Bon. Laissons un peu de suspense.
Mmh. Encore un jeune homme mort sous les coups de mineurs. C'est ce qu'on retient de votre journal ce soir, bien évidemment, au-delà de votre excellente interview. Mais c'est tout de même inquiétant. Ces mômes qui n'ont plus de...
Voilà, deux suspects âgés de 14 et 15 ans qui sont en garde à vue ce soir. Et c'est un jeune homme de 22 ans qui a été roué de coups. Les deux suspects auraient, alors trois agresseurs, auraient dérobé son téléphone portable après l'avoir roué de coups, selon les témoins.
Est-ce qu'on sait pour quelles raisons ils ont roué de coups, ce jeune homme ?
Alors, ce qu'on peut en déduire, selon les premiers témoignages, encore une fois, l'enquête n'est absolument pas finie, mais c'est peut-être un vol de téléphone qui aurait mal tourné, puisque les suspects ont pris le téléphone après l'avoir roué de coups. Donc, ce sont encore une fois les premiers éléments.
Bon, eh bien, c'est très triste tout ça, malheureusement. Il est décédé, hein, c'est ça?
Il est décédé, des suites de ses blessures dans la nuit de lundi à mardi.
Très bien. Bon, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau tour de l'info à partir de 23h, mon cher Maël.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis, et que vous êtes maintenant tranquillement installés chez vous, puisque c'est votre libre antenne et que nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous le savez, dans cette libre antenne, c'est votre parole qui compte et nous passons notre temps à vous écouter et pourquoi pas à chercher et trouver quelques solutions à vos problèmes. 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous appeler, Julia, Florian et Laurent sont en régie ici à Europe 1 et attendent vos appels. Vous pouvez aussi nous écrire au 739 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous pouvez aussi écrire vos messages sur la page Facebook de la Libre Antenne où nous accueillons un nouveau membre aujourd'hui. 19 887 membres forment cette communauté numérique de la Libre Antenne. Vous pouvez également écrire vos mails à libreantenne@europe1.fr et puis vos courriers postaux à la Libre Antenne, Valérie Darmon ou Olivier Delacroix, 2 rue des Cévennes, Europe 1, 75 015, Paris. Voilà, j'espère que vous êtes maintenant au calme, tranquillement installé. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Stéphanie sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Stéphanie.
Oui, bonsoir Olivier, merci beaucoup à vous.
Bonsoir,
de m'accueillir.
Je vous en prie. D'où nous appelez-vous Stéphanie et quel âge avez-vous?
Je vous appelle de Cassy, dans les Bouches-du-Rhône,
oui.
Et j'ai 50 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Stéphanie? Dites-moi.
Il y a 2 ans et demi, le 16 septembre 2021, j'ai perdu ma fille Marie, âgée de 16 ans, suite à du harcèlement. Et suite à ce désespoir avec la perte de ma fille... la non-compréhension de plein de choses. J'ai cherché à savoir, je suis rentrée sur son téléphone. Enfin, j'ai mis plein de choses en place avec mon avocate pour comprendre ce qui s'était passé, puisque elle ne nous a fait part d'absolument rien. Donc, je suis passée d'une famille normale à une famille anéantie dans la nuit du 15 au 16 septembre 2021.
Quelle horreur, mon Dieu.
Voilà.
Quel choc. Quel âge avait votre fille, Marie?
Marie allait avoir 16 ans le 21 octobre.
D'accord. Et quelle jeune fille était-elle, Marie?
Alors, Marie, c'était une jeune fille qui était très vivante, pleine de vie, de joie, qui chantait, qui prenait des cours de chant, qui faisait du théâtre, et qui avait un fort caractère. Donc, d'autant plus de découvrir ça, de connaissant le caractère de Marie, sachant qui elle était, c'était encore plus incompréhensible, inadmissible, intolérable. Tout ce que vous pouvez imaginer quand on perd une enfant de 16 ans comme ça, sans s'en douter, vous voyez, vraiment. On savait qu'il y avait, par rapport au harcèlement, qu'il y avait des choses qui avaient été vécues pendant l'année scolaire. On avait traité, on était intervenu. On pensait, en tout cas, nous, en tant que parents, si vous voulez, avoir gagné sa confiance dans le sens où on avait fait ce qu'il fallait, donc... des mots, des choses à nous dire pour nous alerter, mais non. En fait, Marie a gardé son caractère fort et a gardé tout ça pour elle et nous a pas fait part de son désespoir,
de sa détresse. D'accord.
De sa détresse.
Avant tout ça, elle est sur les réseaux sociaux, Marie.
Oui.
Comment vient le harcèlement? C'est par les réseaux sociaux que c'est venu essentiellement?
Non. Alors, le harcèlement, en fait, il y a eu des personnes dans son école, des jeunes qui l'ont harcelé et qui ont continué leur harcèlement via les réseaux sociaux. Donc, Marie, c'était des gens qui étaient à l'école, qui la connaissaient. Il y a eu du revenge porn d'un soi-disant pseudo meilleur ami qui, après une dispute, ils avaient décidé de plus s'adresser la parole. Mais il a rien trouvé mieux après le nouvel an de poster la photo de Marie sur les réseaux. Donc
ça
photo terriblement
d'un nude, comment on appelle ça,
d'un nude et une vidéo, ouais.
Oh là là, mon Dieu.
Donc elle a été terriblement touchée. Moi j'ai appelé les parents, j'ai appelé l'école où il était. Donc il a été exclu pendant 4 jours.
Vous avez porté plainte contre ce garçon?
Ben en fait non, j'ai pas porté plainte parce que j'ai posé la question à Marie quand si vous voulez, il a été exclu et il a fait ses excuses par texto. Et Marie était sur le canapé, là, chez moi, en train de dire « Mais maman, c'est intolérable, mais des excuses par texto, mais je m'en fous. »
Mais oui,
et moi, à ce moment-là, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? Et en fait, elle était mal parce que déjà, en fait, elle était blessée par tous ces gens qui avaient vu ses photos, cette vidéo. Donc déjà, elle était pas bien et elle avait pas envie au cas où qu'on éclabousse un peu plus sur sa personne.
Oui,
vous voyez, parce que c'est déjà dur. Enfin, en tant qu'adolescent, quand on a de l'embonpoint, quand on est une fille, qu'on prend 15 centimètres en un an, qu'on se développe au niveau de la poitrine, tout ça, si vous voulez, elle avait même pas encore elle-même accepté son corps et le concevoir, et le voir tel qu'il est, que déjà on l'a jugé dessus et on lui faisait des critiques avec quand même des mots assez salaces. Et Marie était pulpeuse, elle avait une belle bouche, elle était très très belle. Et on l'a enfermé dans ce stéréotype, si vous voulez, par du harcèlement. Et l'école qui n'a pas, si vous voulez, tapé du poing, comme on le sait, comme peuvent réagir les directeurs d'école, qui n'ont pas pris conscience de l'impact sur Marie et de ce que faisaient ses enfants, vraiment de la violence verbale et physique qui pouvait causer sur Marie.
Oui,
l'école aussi l'a abandonnée. Donc elle se faisait harceler et en même temps, les adultes, l'école, le système ne la comprend pas et ne la soutient pas surtout. En fait, c'est ça.
Et elle vous parle à l'époque ou pas du tout? Est-ce que vous êtes consciente qu'il y a un problème? Après l'épisode justement du revenge porn, alors pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas ce que c'est que le revenge porn, c'est la revanche à travers des images ou des photos sexuelles, hein, à caractère sexuel généralement, qui ont été pris généralement entre deux personnes qui ont été au moment où elles ont tourné ces images, toutes les deux d'accord pour tourner ces images. Mais malheureusement, ensuite, quand ces images sont postées, c'est souvent pour se venger. Hein, et ça a extrêmement blessé votre fille.
Oui, et puis c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que, en fait, cette photo et cette vidéo ne concernent absolument pas la personne. C'est-à-dire que le meilleur ami a utilisé une photo qu'il a volée à Marie, en fait, hein, et la vidéo, pendant qu'elle lui montrait en FaceTime sur son iPad, lui, avec son téléphone, il a filmé.
D'accord.
Voilà, donc elle n'était même pas au courant qu'il capturait cette vidéo et cette photo. Et après, donc du coup, c'est encore pire, il s'est permis de l'utiliser alors qu'elle ne le savait pas. Elle lui avait montré en tant que meilleure amie, mais par contre, elle lui a autorisé de la copier et de l'envoyer sur les réseaux.
D'accord. D'accord. Donc c'est encore pire.
D'autant plus choquant pour elle.
Oui.
Tout à fait.
Vous auriez dû porter plainte. Hein. Mais bon, elle ne voulait pas, hein, c'est ça. Elle ne voulait pas.
Elle ne voulait pas. Et puis, le jeune homme a fait ses excuses. Après, les parents ont rappelé en disant qu'ils voulaient lui parler. Elle ne voulait plus lui adresser la parole. Donc, pour moi, sachant que quand même, il avait été renvoyé de l'école, que ses parents l'avaient puni, que tout le monde était au courant au niveau de son entourage, que voilà, déjà, on l'a défendu au niveau de son entourage et montré que ce qu'il avait fait était mal et qu'il s'était excusé auprès de tout le monde. Je pensais, et vu qu'elle me disait que c'était bon, que je ne devais pas aller plus loin là-dessus. Mais effectivement, comme vous le dites, peut-être que effectivement, j'aurais dû porter plainte. Mais comme elle m'a pas poussé à le faire vu son caractère et qu'elle était très en colère là-dessus, et que quand Marie était en colère et qu'elle voulait dire les choses, elle n'avait pas de souci pour les dire. Je vous assure que vraiment, il n'y avait aucun souci de là-dessus. Hein. Pour vous dire, ses amis de l'école où elle était disaient, Marie répondait toujours à ses harceleurs. Hein. Stéphanie, elle était là, elle répondait jusqu'à un moment, arrivé vers la fin de l'année, après les vacances de Pâques, on avait l'impression qu'elle avait abandonné le combat. Elle ne leur répondait même plus. Comme si, en fait, si vous voulez, le harcèlement avait vraiment pris toute la place.
Oui, oui.
J'ai été une fois vérifiée sur Wikipédia, je ne sais pas pourquoi la définition du harcèlement, alors que je connais quand même la définition de harcèlement, mais en fait, c'est d'aller tous les jours insidieusement chercher quelqu'un et le détruire psychologiquement au point de faire que la personne perd pied et qu'elle n'est plus elle-même et qu'elle perd complètement les bases, ce qu'elle est normalement, quoi. Vous voyez qu'elle perd pied. Donc, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec le caractère de Marie, la rendre tellement. Elle n'avait plus envie de tout ce brouhaha derrière elle, parce que, comme on le dit, ces enfants harcelés, en fait, ça vient pas d'eux, ça vient des autres, mais on fait parler d'eux, on est obligé d'aller voir les directeurs, voyez, on convoque, et du coup, on parle beaucoup de ces enfants, et eux, au bout d'un moment, ils en ont marre, parce qu'ils sont pas bien, on parle d'eux, ils sont dans le mal-être, et il y a les harceleurs derrière qui continuent, parce que il y a quelque chose dont je me suis rendu compte avec ces 2 ans et demi passés avec tous ces enfants. C'est que peut-être une maman comme moi, qui avait justement tendance à être très réactive, à aller voir les enfants, à leur parler, à aller voir à l'école, les attraper à la sortie, si vous voulez, c'est pas spécialement très bien, dans le sens où derrière, les harceleurs vont faire payer aux enfants harcelés.
C'est ce qui s'est passé, en gros.
Et ben, en fait, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait derrière mes interventions. Ce que je savais, c'est qu'ils étaient là sur elle et qu'ils ne la lâchaient pas. Donc moi, j'étais là, derrière, avec elle, et je ne lâchais pas. Avec l'établissement, je ne lâchais pas, mais tout est pris à « ce sont des enfants, ne vous inquiétez pas, ils se le rendent bien ». Malgré le fait que l'école me mette au courant qu'il y a des vidéos éphémères qui circulent avec des vidéos du dessin animé Peppa Pig avec la tête de Marie, que tous les lycées visionnent ça, que ça a été attrapé par la direction. Donc c'est même eux qui m'informent, donc ils sont au courant qu'elle subit des choses.
D'accord.
Et malgré ça, ils vont... le 15 juin, nous annoncer que... Le 15 juin, hein, 2021 nous annonçait qu'elle redouble et qu'ils ne veulent pas la reprendre et qu'il faut qu'on se débrouille en 2 mois pour trouver un autre.
Qu'ils ne veulent pas la reprendre, pour quel motif ?
Eh bien, parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas fait assez d'efforts au 3e trimestre, alors qu'elle est harcelée, que nous sommes quand même... c'est le moment du Covid, hein, aussi. Donc, il y a des périodes de confinement, que c'est compliqué pour les enfants et que Marie n'est pas bien à cause du harcèlement. Et on lui donne comme excuse, alors qu'elle n'a jamais redoublé de sa vie, qu'elle est quand même aussi dans une école où elle est pensionnaire, puisqu'elle dort là-bas, puisqu'elle a voulu être en pension. Pour reproduire un petit peu ce que j'avais fait à mes 16 ans, pour cette envie de liberté, de connaître des choses. Et même le fait d'être pensionnaire ne lui a pas donné la priorité de revenir dans cette école. Enfin, en tout cas, ils ne lui ont pas donné la possibilité de pouvoir même redoubler dans cette école. Ils n'étaient pas d'accord.
Ah oui, il ne voulait plus de Marie, en fait. Marie était
voilà,
une source
il ne voulait plus de Marie.
D'embêtement, en fait.
D'embêtement, voilà, on parle, ça fait convoquer les parents, ça fait peut-être une mauvaise image de marque pour l'école, alors qu'il y a quand même, il y avait déjà pas mal de soucis et qui ont continué même derrière, puisque bien évidemment, les harceleurs ont été gardés, bien évidemment, dans le lycée, et pas Marie. Donc alors, ça aussi,
Avant que nous allions plus loin, plusieurs questions. Oui. Depuis 2021, avez-vous appris plusieurs choses sur justement le harcèlement et ce qu'a subi Marie, en fait, avant son suicide?
Oui. Puisque
les langues se sont déliées, on vous a raconté?
Oui, en fait, si vous voulez, moi, pour survivre, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé.
Bien sûr, bien sûr.
Et voilà, je ne peux pas rester dans le mutisme. C'est-à-dire que moi, si je reste dans le mutisme, j'ai une petite fille encore à la maison. Et voilà, et ma fille, c'était... Enfin, voilà, pour moi, je dis même que Marie est partie en vacances dans un endroit ailleurs qui lui plaît mieux, tellement pour moi, c'est inconcevable le geste qu'elle a fait, vu le caractère et la vie, le soleil qu'elle représentait, vous voyez ? Oui. Donc, vraiment, j'ai besoin d'aller au bout de ça. Et effectivement, mon avocate, on a fait des investigations, parce qu'il y a eu des soucis aussi au niveau de la police qui a perdu le dossier de Marie, tout ça. Donc, je me suis portée partie civile et j'ai moi-même voulu créer le dossier de Marie. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ce soit mon avocate qui appelle tous ses amis et ses connaissances, mais que ce soit moi, parce que j'estimais que des enfants à 16 ans, c'est plus simple pour parler, que ce soit la maman de Marie. Donc, j'ai eu 14 témoignages, sans parler de tous les témoignages sur Instagram, sur le compte de Marie, et après, des gens qui m'ont demandé en ami pour me témoigner des choses sur les harceleurs de Marie. Et donc, tout ça, je l'ai fait remonter à mon avocate, qui l'a fait partir, donc, justement, à la juge qui s'occupe du dossier maintenant à Toulon.
D'accord. Donc, vous avez identifié les harceleurs de Marie.
Mais Marie les identifiait, hein, donc.
D'accord, ok.
Identifié.
Ok. Sur quel réseau Marie a-t-elle été harcelée?
Principalement TikTok et Snapchat.
D'accord. Vous avez porté plainte contre ces réseaux ?
J'ai porté plainte au mois de septembre 2023, contre TikTok.
D'accord. Contre TikTok. Donc, où ça en est, cette plainte ?
Pour l'instant, il n'y a pas de réponse de TikTok.
D'accord. Comme d'habitude.
Voilà. C'est pour cela, raison pour laquelle nous avons monté un collectif.
C'est pour cela que je vous ai posé cette question, ma chère Stéphanie. Parce qu'aujourd'hui, ouais, en France, pays des droits de l'homme, hein, et de tout, ces libertés, nos jeunes ne sont absolument pas protégés et sont en proie à ce type de harcèlement, hein, et ce type donc de blessure dont ils sont victimes. Au nom du business, parce que sur ces réseaux sociaux, non seulement on peut vous insulter, on peut vous mettre plus bas que terre, on peut, votre pauvre enfant l'a subi, subir des revenge porn, des photos détournées de nude, et puis malheureusement, on ne peut pas faire appel à ces réseaux sociaux qui sont... qui sont comme les utilisateurs, une grande partie des utilisateurs finalement, c'est un réseau chinois, hein, TikTok, il faut le savoir. Et TikTok, ne répond pas. En fait, il y a des adolescents qui se suicident aujourd'hui. Mm-hmm. TikTok, je le dis ce soir sur cette antenne, porte une énorme responsabilité dans la mort de nos enfants et ne rend aucun compte aujourd'hui. Est-ce normal que nos gouvernants, nos politiques ne demande aucun compte à ces réseaux sociaux, à ces plateformes qui font du fric,
sur le sang de nos enfants. La fragilité d'adolescents, alors qu'on sait que c'est une période qui est fragile, l'adolescence, on est tous passés par là.
Complètement.
Donc de jouer sur des enfants pour faire de l'argent, je trouve ça monstrueux.
C'est une histoire d'argent, hein, n'oublions pas.
Oui, mais complètement, parce que quand on voit TikTok, il y a à peu près 2 milliards d'utilisateurs, hein, sont principalement des adolescents. Il faut savoir que on nous parle de modérateurs pour justement qu'il n'y ait plus de contenu ni nocif ni mortifère.
Oui.
Et il faut savoir qu'en fait, TikTok a décidé de ne pas investir dans les modérateurs. Donc en fait, tous ces contenus, tant que TikTok n'investira pas, bon, tant qu'on ne cadrera pas aussi, hein, on continuera à à avoir tous ces contenus.
Exactement.
Qui vont passer comme ça, qui ne vont pas être filtrés. Et donc, nos enfants vont avoir accès à ce genre de contenu.
Et puis, je vais vous révéler autre chose, parce que je viens de terminer un film là-dessus. Hein. Donc, je peux vous dire que je suis bien au courant de tout cela. TikTok ne répond absolument pas donc à qui que ce soit, et justement aux parents des pauvres enfants qui ont perdu la vie. TikTok se refuse à ça. Mais il faut savoir que TikTok, plateforme chinoise, interdite en Inde. Parce que, je vais vous dire, moi je reviens d'Inde, les Indiens ne veulent pas entendre parler de cette plateforme. Déjà. Je vous dis ça parce que c'est la preuve qu'on peut interdire TikTok.
Complètement. C'est
mais au nom de quoi on n'interdit pas TikTok?
Au nom du pognon, comme je faisais l'autre jour sur BFM, c'est-à-dire que on va plus pouvoir, les Chinois ne vont plus nous acheter de vin, du Louis Vuitton et tout ça, effectivement, au nom du business. Et moi, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quelques temps, je disais, pourquoi on ne propose pas des contenus positifs? Mais pourquoi alors, dans ces cas-là, puisque TikTok a changé son mode de fonctionnement pour ses propres adolescents, pourquoi TikTok ne proposerait pas à nos adolescents occidentaux leur propre TikTok?
Exactement, parce que vous le savez, TikTok en Chine est totalement différent que le TikTok que nous occidentaux avons.
Il y a un mode adolescent, voilà. Avec une reconnaissance faciale,
exactement.
Une autorisation parentale,
et puis un contenu tout à fait différent.
Mais des contenus très intelligents.
Des contenus très intelligents qui leur apprennent justement.
Exactement.
Donc les Chinois détruisent notre jeunesse en même temps qu'ils instruisent la leur. Parce qu'ils ont bien compris le côté...
Voilà, on en fait les conclusions, effectivement, je peux dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est à nous, à notre gouvernement, à nos gouvernants, justement, comme vous disiez tout à l'heure, de voir. Mais nous, en tant que parents, moi, en attendant, en tant que maman de Marie, pour la mémoire de ma fille, parce que ma fille ne mérite pas ça, parce que j'ai envie de dire aussi que nous, les parents, parce qu'on reproche quand même aussi pas mal de choses aux parents, toujours sur le plateau de BFM, j'ai pas eu le temps de parler, mais voilà, les parents, moi, ma fille, elle avait quand même, je lui mettais les, comment ça s'appelle, oh, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, je lui bloquais son téléphone, elle avait un temps d'écran, pardon, excusez-moi, je la coupais. Par contre, une enfant de 15 ans, moi, les contenus de TikTok, j'avais aucune idée de me dire est-ce que ces contenus étaient mortifères ou nocifs. J'ai appris ça en rentrant dans le téléphone de ma fille pour aller comprendre, j'étais même pas au courant. Et même si vous faites, ok, quand ils disent oui, mais les parents doivent mettre un temps d'écran, mais si pendant ce temps d'écran, l'enfant qui n'est pas très bien va avoir accès à ces contenus nocifs, c'est pas possible.
C'est la même chose.
Qu'à nous, parents, je pense qu'il doit y avoir une synergie qui doit être faite en France entre le gouvernement, les plateformes, les parents, les opérateurs, et qu'on crée une espèce de travail commun pour avancer ensemble pour nos enfants, pour sauver cette génération de comme j'entendais tout à l'heure, d'ultra-violence. Enfin, il y a des enfants qui meurent toutes les 30 secondes. Et tout ça, c'est qu'à un moment, quand vous parliez tout à l'heure aussi de droit et de liberté, mais à un moment, il faut savoir à qui on autorise le droit et la liberté.
Et puis où commence la liberté de nos enfants à partir du moment où on autorise l'anonymat sur ces plateformes qui, bien évidemment, sont des plateformes qui ont bien compris qu'avec l'anonymat, l'insulte est permise, tout est permis, toutes les saloperies sont permises. Et au nom de quoi l'anonymat, j'ai plein de mômes qui m'ont dit « oui, mais la liberté d'expression ». Mais je leur ai dit « mais ta liberté d'expression, ta liberté à toi, elle s'arrête au moment où on t'insulte, où on te réduit à rien ». Pour une fille où on la réduit à une S, à une P, c'est tout finalement. Ça n'est que ça, et tout ça au nom simplement du business, parce que aujourd'hui ça n'est que ça. Et puis où, dans un pays civilisé, où nous citoyens on nous met sous le coup de lois de contraintes permanentes, d'où on ne contraint pas une entreprise comme TikTok à devoir rendre des comptes et avoir une charte de moralité.
Complètement, ouais.
D'où ça me dégoûte. Alors quand j'entends qu'une... Parce que, vous savez, j'ai rencontré une maman qui s'appelait Stéphanie, comme vous, et qui a perdu, comme vous, à Bordeaux, dans la région de Bordeaux, sa fille, le 1er mai, en 2000... 2022, qui s'est pendue. Elle avait plié son câble de téléphone et puis rangé son téléphone. Et quand sa maman est rentrée, eh bien, elle s'était pendue dans le salon.
Oh mon Dieu.
Voilà. Et quand un môme de 15 ans en est à devoir se pendre, à devoir sauter la vie, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Quelle est la gravité des choses qui se sont passées sur ces réseaux sociaux ? Qui se pose la question à part les parents ?
Ouais, ils les ont enfermés. Moi, ma fille dit sur la vidéo qu'elle a laissée qu'elle a peur des représailles. Et ça, vous voyez, des représailles. Et je ne comprends pas de quoi ma fille a peur. Je ne comprends pas de quoi Marie peut avoir peur, si ce n'est de son image. Donc, c'est-à-dire que mettre un enfant dans un désarroi, un désespoir, utiliser nos enfants, tout ça pour qu'ils soient connectés avec leur algorithme un maximum et qu'ils ne décrochent pas avec cette fameuse bulle, vous savez, de filtre là. C'est vous enfermez les enfants dans une atmosphère et même ils ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'en fait, cette bulle de filtre, avant même que l'enfant aille se connecter, l'algorithme et la bulle de filtre vont aller chercher, vont aller chercher l'information en fait qui a été vue avant par l'enfant et à partir de là va lui envoyer donc tous ses contenus à partir de discussions qu'il a eues avec des amis, de choses qu'il a connectées avant, il va faire des recherches et va lui envoyer. Donc c'est juste hallucinant, c'est un travail minutieux pour captiver les gens et pour comme une espèce de contrainte à rester enfermé dans cette bulle de filtre.
Exactement, malheureusement.
Et ils disent même, je me permets, hein, on le met dans un état d'isolement intellectuel et culturel, et il se retrouve dans des propositions de contenu basées sur une personnalisation mise en place à son insu.
Voilà.
Vous voyez, Olivier, c'est pervers, c'est insidieux, c'est calculé en amont. Et ce qui est le pire sur TikTok, que vous devez connaître, c'est qu'en fait, ils vont chercher sur la fragilité, parce qu'ils vont aller capter la fragilité des gens. C'est-à-dire que, par exemple, en deux minutes, sur un contenu TikTok, si par exemple Marie, qui est fort probable, hein, parce que Marion me dit pourquoi elle aurait reçu ce genre de contenu, perte de poids, là, tout de suite, veut dire que vous n'êtes pas bien dans votre vie et que vous êtes dépressif. Non, on peut vous proposer d'aller faire du sport, un programme de sportif, un programme de régime. Pourquoi vous proposer de l'automutilisation et des moyens de se donner la mort ? Oui. Je ne comprends pas. Voilà ce qu'on a proposé à Marie, pour perte de poids.
Oui. C'est hallucinant. Je vous dis, ça m'échappe complètement qu'aujourd'hui, on puisse permettre ce genre de choses. Alors qu'encore une fois, pour créer des voitures qui prennent les plaques d'immatriculation des motos dans les grandes villes, là on y va, là, pour taxer les citoyens, on y va, pour mettre les citoyens, vous qui nous écoutez, sous tout un tas de lois où vous allez être obligés de payer, tout le temps payer. On est très performant et nos politiques sont très au point là-dessus pour payer les impôts, pour payer des taxes, pour toujours vous faire raquer beaucoup plus. Par contre, pour protéger nos enfants et attaquer ces réseaux sociaux qui sont des industries mais très riches. Ça on ne fait pas ça.
Oui, parce que ils pourraient mettre des modérateurs, mais mettre des modérateurs, c'est perdre de l'argent.
Exactement.
Voilà, donc il faut prendre des décisions. Et comme il y en a... Parce que, par exemple, on peut être banni. C'est comme ça que j'ai compris, alors entre ce que j'ai vu sur le téléphone de Marie, et en fait, Marie, avant de partir, a banni sa sœur de TikTok. On a essayé de reconnecter ma fille. Au départ, on voulait voir. On ne peut pas. Elle est bannie. Et donc, j'en ai parlé à mon avocate. Si on bannit quelqu'un, c'est qu'ils ont bien des règles. que voilà, quand on bannit, c'est qu'il a plus le droit de revenir à vie. Banni. Donc il y a bien des règles et on peut rentrer dans ces failles, dans ces fissures et aller voir qui ne va pas et trouver. C'est-à-dire que là, leur fonctionnement, en fait, par rapport aussi bien à la loi européenne, le DSA, je pense que vous connaissez la loi qui est sortie au mois d'août, qui est...
Expliquez-nous, parce que moi je la connais, mais tout le monde ne la connaît pas, malheureusement.
Donc, elle est sortie, c'est une loi européenne qui est sortie au mois d'août l'année dernière, oui. Qui est en fait le Digital Service Act, qui vise à une liberté d'action, en fait, contrainte pour les plateformes, hein, je parle en général, mais aussi une responsabilité face à la diffusion des contenus et face aux préjudices infligés aux mineurs. C'est-à-dire qu'on peut, en tant que parent, porter plainte et aller chercher au DSA, les informer. Et normalement, ils doivent appliquer ces règles. Et d'ailleurs, depuis le mois de février, ils sont dans le collimateur du DSA, puisqu'ils sont au tribunal depuis février avec le DSA. Et avec le Sénat aux États-Unis aussi.
Donc, voilà.
La commission du Sénat américain les a saisis en janvier. Et l'Union européenne, via le DSA, mène une enquête aussi contre TikTok depuis le mois de février.
Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que vous avez perdu votre fille, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont morts à cause de ces réseaux sociaux. TikTok, hein, je le rappelle, au début, c'était une gentille petite plateforme où on faisait des petits clips tout gentils. Hein, et allez voir maintenant ce qui s'y passe. Et allez voir le nombre d'abrutis en plus qui habitent Dubaï et qui sont... aujourd'hui des influenceurs qui gagnent des millions à faire des conneries toute la journée. Franchement, quelque chose d'ahurissant, de bêtise. Et au milieu de tout ça, nous avons des enfants qui pensent qu'un jour ils seront comme ces influenceurs et qui pensent qu'aujourd'hui la vie,
éphémère.
C'est possiblement gagner de l'argent à ne rien faire et à se filmer toute la journée. Voilà.
Oui, mais c'est ça,
ce à quoi rêvent nos jeunes aujourd'hui. Hein, une grande partie de nos jeunes.
Je me permets, ça faisait partie des choses que je voulais vous dire. Vous savez, nos enfants, ce que je remarque maintenant, en me mettant, c'est qu'ils ne deviennent que récepteurs. Ils ne traitent plus les informations avec Internet. En fait, on nous a mis un outil dans la main qui pourrait être beau, mais nos enfants, en fait, ne traitent plus les informations et ne font que les recevoir.
Ils se renseignent sur TikTok. L'actualité, ils la connaissent à travers TikTok. Alors, je vous jure, vous verriez le niveau des échanges, même sur la Palestine, sur Israël, sur la politique même, l'économie. Mais c'est affligeant. Mais je vous jure que c'est une catastrophe. Une catastrophe.
Et en même temps, c'est très désespérant. Bien que la meilleure façon de manipuler les gens, c'est le manque de connaissances et d'éducation. Enfin, voilà, c'est la meilleure façon de véhiculer la bêtise, la cruauté, la violence. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui a envie de regarder ça quand même dans la société. Enfin, j'espère.
Non, mais malheureusement,
Il faut qu'on relève
beaucoup.
Le niveau de ça.
Mais oui.
Oui, mais c'est à nous, les adultes, de relever le niveau.
Mais pour ça, il faut qu'on régule les choses.
Il n'y aura pas de gens pour se battre pour ça. Oui, mais je pense que là, si on élevait nos voix haut et fort, nous, en tant que citoyens, puisqu'on est des citoyens, et qu'on s'élève contre tout ça, tous ensemble, parce que je pense que l'union fait la force, si on élève notre voix contre tout ça, enfin, il y a quand même des gens harcelés qui me disent, et Marie aussi, on va quand même voir des psys, alors que c'est quand même des gros malades qui nous attaquent toute la journée. Donc c'est des enfants normaux qui vont quand même voir des psys, parce qu'il y a des enfants pas tranquilles qui leur font du mal et qui ont besoin d'envoyer toute leur violence sur les autres. Je veux dire, il y a quand même un monde à l'envers, là, j'ai envie de dire.
Hein.
C'est pas normal. Voilà, moi, ma fille, elle était saine. Enfin, après, ça reste une adolescente, elle devait avoir ses petits travers. Mais à la base, elle était saine et aimante. Et les témoignages de tous ses amis ne font que le confirmer, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui donnait, qui prêtait, qui avait envie de rire. Et voilà, donc on peut pas faire perdre la joie de vivre aux gens, quoi. Voilà, il faut rétablir un espèce d'ordre. Et il y a un moment, dans la vie, il faut des règles. Hein. Vous voyagez, je suis hôtesse de l'air, je suis chez Air France. Vous allez à Singapour, il y a 20 ans, Singapour, c'est n'importe quoi. Maintenant, il n'y a plus un égo dans la rue, c'est nickel, c'est carré. Et voilà, à un moment, des règles, c'est des règles, et on ne les transgresse pas, les règles. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'on se rend compte que maintenant, il y a la nouvelle génération, les adolescents, les nouveaux adolescents, il n'y a pas de loi pour eux. Et là, ils commencent à devenir violents à partir de 10-11 ans. Hein, et on le remarque bien, 12, 13, 14, tout ça, ils deviennent bien violents. Donc il faudrait quand même qu'on commence à établir des lois sur ces nouveaux jeunes qui font un peu du n'importe quoi et qui comprennent que dans la vie, pour avancer, il faut qu'il y ait des sanctions. Parce que tant qu'il n'y a pas de sanctions, on ne comprend pas. Hein. C'est le truc de la punition. Hein. J'ai un enfant, il fait des bêtises, il est puni. Voilà, si on ne le punit pas, il continue. Parce que pour lui, ça s'appelle de l'impunité. Quand on voit que les harceleurs de Marie, il n'y a même pas encore eu, ils n'ont même pas encore été convoqués devant un juge.
C'est affreux. Tout ça a eu lieu en 2021.
Le caractère que j'ai, je peux vous dire que j'ai ravalé ma langue un paquet de fois, hein, parce qu'il fallait que je me taise et parce qu'il faut que je me taise. Mais il y a un moment, moi, ma fille, elle est partie depuis 2 ans et demi et eux, ils sont là tranquilles.
Mais oui,
quoi.
Votre fille est morte.
Et ça, c'est pas normal.
Mais non, c'est pas normal,
voilà,
bien évidemment.
Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aussi, Olivier, qu'il y ait des enfants. Il y a l'INSEE qui est parti au mois de mars. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ces gamines vont dire sur les réseaux? Qu'elles sont contentes, qu'elles sont arrivées à leur fin, qu'elles vont aller profaner sa tombe. Mais non, mais c'est comment? J'ai même appelé mon avocate. Comment même la justice peut faire ce genre de choses?
Mais voyez, vous évoquez quelque chose. Vous évoquez quelque chose qui est immonde. Et ça arrive bien chez nous en France là. Grâce à ces réseaux sociaux. On a un SMS qui n'est pas signé, malheureusement. J'ai 18 ans et je confirme totalement, TikTok est un réseau de plus en plus toxique et pourtant je continue à l'utiliser. TikTok se rend indispensable auprès des jeunes comme nous. Nous sommes de plus en plus à nous réveiller, à essayer de s'en sortir, mais ça, c'est très difficile. Voilà
oui,
le témoignage d'une gamine de 18 ans.
Une addiction
à cet enfermement. C'est Lily qui, c'est Lily qui signe cela.
Ah, ouais.
Lily qui a signé ce SMS. On va marquer une pause, si vous le voulez bien.
Oui, et puis, bien sûr, Olivier.
On va laisser